débutons l'émission par un événement estival recommandé, la 7e édition de la Triennale d'art actuel. Voici donc notre entretien spécial avec le duo de commissaires Élisane Laplante et Véronique Leblanc. La 7e édition de l'événement communautaire et artistique Orange, titré « Cultiver l'humilité », est en cours jusqu'au 11 septembre 2022. En région agricole reconnue à Saint-Hyacinthe, l'événement se déploie dans deux lieux de diffusion, principalement au Centre d'exposition Expression et au magnifique jardin Daniel A. Séguin. Mais à ces lieux s'ajoutent le musée des Abénakis et Vrai Actuel à Rivière-Ouelle, à Saint-Germain-de-Kamouraska, et l'Apocatière qui sera particulièrement animée cette fin de semaine dans le cadre d'un micro-festival faisant partie de Orange. Cette année, l'événement Orange s'intéresse particulièrement à l'univers des plantes au présent et au passé en considérant, entre autres, l'héritage colonial à travers des œuvres de 11 artistes réunis, certains exposant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour en savoir plus sur cette exposition à grand déploiement, j'ai le plaisir vraiment d'accueillir en studio à Radio Centre-Ville le duo de commissaires Élisane Laplante, qui a vraiment un nom prédestiné, et Véronique Leblanc à Radio Centre-Ville, deux co-commissaires qui travaillent depuis plus de 3 ans à ce projet. Bienvenue! Bienvenue!
Merci! Merci, bonjour!
Quel plaisir! Alors, j'aimerais d'abord qu'on s'entretienne sur le questionnement d'intérêt que vous proposez à plusieurs au public cette année. Hein. C'est un événement Orange qui est titré « Cultiver l'humilité ». Donc, et c'est un questionnement principalement sur nos rapports avec les plantes. Hein. Vous osez parler de rapports de domination, alors je vous laisse la parole. Écoutez, je vous félicite parce que c'est une thématique qui peut apparaître discrète, mais qui est chargée finalement.
Oui, ben tout à fait. Il y a beaucoup des réflexions qui se trament dans le projet, même si il y a certainement une sensibilité, une délicatesse qui est présente. Dans le fond, le projet d'événement, on a vraiment été guidé dans nos réflexions par une question, d'abord et avant tout, qui est la suivante. Donc, que voulons-nous apprendre des plantes? Véronique et moi, Élisane, on avait envie de se poser des questions, mais de joindre aussi des intérêts qu'on avait dans le milieu artistique, mais aussi des intérêts qu'on avait pour les plantes, mais de manière plutôt amatrice, vraiment dans nos pratiques quotidiennes. On s'intéressait au jardinage, à l'herboristerie, etc. Donc, on avait envie de croiser un peu ces intérêts. Puis, c'est vraiment cette question-là, donc que voulons-nous apprendre, qui nous a guidés. Donc, on approche le projet dans une posture d'apprenant. Donc, vraiment de concevoir comment l'univers des plantes ou même l'univers des jardins, parce que a priori, Orange a lancé l'appel en proposant la thématique du jardin.
À prime abord,
oui. Oui, à prime abord. Donc, en 2019, l'appel a été lancé et Véronique et moi, on a proposé un projet curatorial qui envisageait la notion du jardin.
Le jardin qui est un symbole vraiment de la domestication de la nature par l'être humain. Hein?
Oui, mais justement,
un grand symbole.
Nous, on a eu envie de détourner un peu cette question-là et d'aller ailleurs ou d'aller dans une autre direction, puis de se demander qu'est-ce qui arrive si on considère les friches, les forêts, les fonds marins, etc., comme des jardins. Et forcément, bon, cet intérêt-là ou cette manière d'approcher le sujet était influencé par des pratiques artistiques que on connaissait déjà, certaines qui font partie du projet ou certaines d'autres qu'on avait déjà côtoyées. Alors, on avait envie, à travers les pratiques artistiques, de un peu poser des questions ou de poser un regard peut-être plus alternatif sur cette notion de jardin et de vraiment mettre la plante au centre. Donc, que voulons-nous apprendre des plantes? C'est vraiment d'où ça vient.
Parce qu'on sait que, justement, les terrains en friche reprennent de la place, reprennent de l'importance aux yeux des dirigeants, des responsables municipaux. Puis ils ont leur esthétique, hein? Ils ont ces terrains en friche-là, si on les observe de près, elles ont une certaine esthétique.
Mais surtout, j'allais dire que ces friches-là, elles peuvent devenir des jardins à partir du moment où on possède les connaissances pour reconnaître et connaître et aimer et apprécier les plantes qui s'y trouvent. Donc, c'est aussi un projet Cultiver l'humilité qui parle de transmission, de connaissances, de savoir aussi, de savoir-faire. Donc, c'est vraiment à travers les multiples artistes qui ont différents bagages aussi personnels, culturels, différentes aventures et trajectoire de vie qu'on a voulu approcher cette question-là. Alors, c'est vraiment en discutant avec les artistes qu'on est parti de ce centre-là qui était la plante, le végétal, pour se rendre compte que les artistes aussi s'intéressaient beaucoup aux interdépendances nécessaires entre la plante et les différents éléments vivants et autres que vivants qui l'entourent. Donc, l'air, l'eau, la lumière, le soleil, les insectes, les minéraux présents dans le sol, etc. Alors, c'est vraiment devenu aussi un projet qui s'intéresse aux relations et aussi, puis c'est un peu ça qu'est-ce qu'on peut apprendre des plantes, hein, c'est-à-dire cette nécessité-là de vivre ensemble, de collaborer, de développer des relations de solidarité. Et donc, il y a aussi une métaphore là, qui s'effectue là, peut-être sur le social à partir de ce moment-là, d'où certains enjeux peut-être plus politisés aussi qui ressortent du projet.
Oui, l'univers de la plante, finalement, étonnamment, nous renvoie un petit peu à la nature humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous accordez beaucoup d'importance à la diversité hein, de l'univers de la plante. On l'a beaucoup domestiqué. Écoutez, on va parler tout à l'heure d'une artiste justement qui parle du gazon, là. Mais la plante est diversifiée et on la connaît peu, hein.
Oui, mais en fait, avec le projet, on avait envie d'aller à la rencontre de pratiques artistiques qui s'intéressent à la plante ou à certains savoirs par rapport aux plantes que la culture coloniale, dominante, très blanche, occidentale, peut-être ignore ou effacer ou invisibiliser. Donc, il y a beaucoup de connaissances, en fait, qui sont là, qui existent, mais elles sont marginalisées, elles sont invisibilisées par d'autres pratiques qui prennent toute la place. Donc, on avait vraiment envie d'aller vers des regards ou des perspectives autres que celles, coloniales, de classification très scientifique, biologique, botanique, et donc de s'intéresser à ces approches qui sont très riches, très... très pertinent, qu'on doit être à l'écoute de ces pratiques-là.
De là, toute l'importance de votre titre, hein, Cultiver l'humilité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous remontez dans l'histoire, hein, vous remettez en question, justement, des notions qui datent de ce régime colonial avec lequel on continue de composer. Hein, et les traces sont encore omniprésentes ici et là.
Ouais. Bien sûr, puis le titre « Cultiver l'humilité », on l'a aussi avec l'aide de Philippe Charland traduit ou fait traduire en fait en langue abénakise, ce qui donne « Menzagen Pewe Oswan Gan ». Et c'était vraiment un beau moment pour nous de travailler avec ce traducteur qui est un des quelques locuteurs de la langue abénakise, qui n'est pas abénaki lui-même, mais qui a vraiment la connaissance de la langue à travers ses recherches. Et puis, on a eu un très beau moment en recevant la traduction du titre parce que c'est pas de la même manière exactement que ça se présente ce titre-là en langue abénakise. Et si je me rappelle bien...
Il y a différents sens selon la langue.
Ça veut dire donc ouais. qui se fait petit et ce qui croit. Et donc, ce qui croit tout en se faisant petit. Donc, il y avait vraiment comme ce sens-là qui était convoqué par la langue abénaki, ce qui nous semblait aussi porteur de différentes postures ou de différentes visions du monde qui cohabitent aussi dans le projet à côté des nôtres comme commissaires. Dès le début du projet, on était tout à fait consciente que Saint-Hyacinthe, comme ville, se trouve en territoire non cédé Wabanaki. Ouais. Et on trouvait que, comme notre projet, et de toute façon pour tout projet, c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on est lorsqu'on travaille. Nous, on est invités sur ce territoire-là. On est plutôt installés, Élisane et moi, donc à Montréal, en territoire Ganyangéaga, et donc on arrive à Saint-Hyacinthe en se posant la question justement de où se situe le Centre d'art expression, quelle est l'histoire de ce lieu et tout ça. Donc c'était très important pour nous aussi parce que le projet s'interroge sur le vivant, sur le territoire, sur le lieu aussi, sur les réalités, disons, du végétal dans ce lieu-là. Et bon, les plantes et les roches ont vu bien d'autres affaires que nous, êtres humains, qui sommes là depuis relativement peu de temps, si on parle, disons, de la gang qui arrive à l'époque coloniale, mais aussi il y avait d'autres êtres humains qui étaient là bien avant nous. Donc, c'était très important pour nous de reconnaître le territoire et d'approcher, finalement, le grand conseil de la nation Wabanaki dès le début du projet pour pouvoir tendre une perche, voir s'il y avait des initiatives du côté de la communauté d'Odanak, entre autres, qui résonnaient avec notre projet. Et on en a trouvé des initiatives. Le bureau du Ndakina, donc le bureau qui s'occupe un peu de la gestion du territoire, avait un projet notamment sur la disponibilité des plantes médicinales en contexte de changement climatique. Alors, on a parlé avec les instigatrices et instigateurs de ce projet-là. Et donc, c'est vraiment, on voulait rendre visible, finalement, le rapport au végétal de la communauté et de la nation. Et puis, dans ce cadre-là, on a eu la chance là, de pouvoir inviter des gens, des porteuses et des porteurs de savoir, comme Michel Durand-Nolette, qui est vraiment un spécialiste du végétal, des usages des plantes pour la nation. La conteuse Nicole Obomsawin aussi, qui nous a fait une soirée de conte le 17 juin dernier. Alors, c'était très important pour nous de développer une relation avec la nation.
Que c'est intéressant, quelle programmation
qui guide un peu plus cette idée de cultiver l'humilité, c'était pour nous aussi l'idée de la rencontre. Donc vraiment, de créer des moments de rencontre, de conversation où il peut avoir transmission de connaissances ou partage d'expériences. Donc ça, pour nous, c'était très important, à la fois entre, évidemment, les œuvres qui sont présentées. Donc, il y a ça qui est tout derrière le travail curatorial, c'est vraiment de réfléchir le dialogue entre les œuvres. Mais au début, on disait, donc, c'est un événement artistique et communautaire. Donc, pour nous, la dimension communautaire, c'est comme si on avait envie de le concevoir. On avait vraiment envie que des rencontres existent tout au long de l'événement, notamment parce qu'on avait le temps, on avait 3 mois, donc on pouvait créer une programmation d'activité. Mais la rencontre, elle a vraiment tissé notre manière de travailler aussi, à commencer entre Véronique et moi, où vraiment, c'est vraiment un co-commissariat très proche, où il y a une amitié qui se développe, puis ensuite avec les artistes aussi, donc il y a vraiment eu beaucoup d'échanges qui a venu transformer les propos du concept du projet. Donc, il y a vraiment cet échange-là, cette fluidité-là entre les gens qui était très importante et très centrale au développement du projet.
Alors, on vient d'entendre le groupe iconique de Roots, fondé en 1987, et leur chanson de Seeds, en prestation ce soir dans le cadre du grand événement de clôture du Festival international du jazz de Montréal à 21h30 à la Place des Festivals. Ne manquez pas cet événement historique et on poursuit l'entrevue avec les deux co-commissaires de la Triennale d'art actuel Orange.
Si on parlait maintenant un peu des artistes parce qu'ils sont au cœur de cette 7e édition de l'événement Orange, écoutez, on ne pourrait pas parler des 11 artistes, là, mais Je me permettrai peut-être de faire un choix, mais à moins que vous vouliez parler d'artistes que vous considérez incontournables, mais j'imagine que vous allez être prise avec un conflit de loyauté, là, de parler d'un artiste plus que d'une autre.
On peut parler de n'importe quel artiste. Elles ont toutes un travail aussi passionnant les unes que les autres, mais on peut y aller peut-être avec vos coups de cœur, vos...
Ça va vous épargner du conflit de loyauté, là, de devoir choisir. Écoutez, j'ai beaucoup de choix, alors ça sera difficile, mais... Allons-y pour Carrie Allison, on en parlait tout à l'heure, hein. S'intéresser au gazon, quel sujet incroyable! Et pourtant, il fallait y penser. Je trouve que c'est un sujet hautement d'actualité.
Oui, bien effectivement, le gazon est un peu représentatif, hein, de ce contrôle, oui, qu'exerce l'humain sur le végétal dans un espace délimité bien précis de culture. Donc, c'est sûr que c'est un végétal qui nous sert souvent, et c'est pas de sa faute, hein, pauvre gazon, mais il est souvent utilisé pour affirmer la propriété de quelqu'un sur un territoire. Alors, Carrie Allison, qui est une artiste de d'origine métisse et aussi européenne, travaille le perlage depuis de nombreuses années. Donc, c'est vraiment une perleuse exceptionnelle. Elle fait beaucoup de types d'œuvres différentes avec ce médium-là, donc le perlage. Et elle accorde une très grande importance aussi à l'apprentissage, justement, et au savoir-faire que ça nécessite. Donc, le temps passé à exercer la pratique de ce perlage-là lui permet de connecter avec ses ancêtres, avec son histoire et d'adresser, bon, toutes sortes de questions, de
questionnements. Une approche résolument artisanale.
Exactement, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et d'en faire, ouais, finalement, ouais, un temps passé, ouais, avec sa culture, à aussi se réapproprier sa culture. Donc là, dans Plot, qui est une œuvre perlée, on retrouve les portraits, hein, de 16 brins de gazon individuels. Donc
c'est quelque chose.
On rend hommage à ces petits brins de gazon, mais en
et
même temps...
on ne l'a pas fait souvent dans l'histoire.
Non, et en même temps, ben, on remarque, hein, parce que ce sont 16 petits cases qui sont disposés de manière très structurée, oui, en forme de grille, hein, donc qui commandent justement le découpage du territoire colonial et un peu l'appropriation coloniale des terres. Et évidemment, ben bon, Carrie Allison est en territoire Mi'kmaq, elle vit à Halifax, mais elle expose cette œuvre-là à Saint-Hyacinthe en ce moment, et on peut pas s'empêcher de faire référence ou faire allusion, disons, à la crise d'Oka, hein, qui était un peu sur un enjeu de gazon, hein, le type de gazon avec lequel
et
elle
de
travaille.
Golf.
C'est ça, exactement, le type de gazon avec lequel elle travaille, c'est une variété de gazon qui est principalement utilisée dans les golfs. En fait, c'est un gazon très particulier qui veut être tondu de manière très intensive. Donc, on doit garder toujours court parce que si on le laisse pousser, il va finir par s'entrelacer et s'auto-détruire par lui-même. Alors, c'est vraiment un peu ce drôle de phénomène d'un végétal qui est vraiment travaillé par une industrie qui sert finalement les besoins de l'être humain avec lequel elle travaille, pour avoir ce double discours-là, là, de l'hommage au vivant, mais en même temps un regard critique sur l'utilisation, disons, coloniale des plantes.
Écoutez, tout à fait, ça prend tout son sens, le sens du mot colonial, cette présentation par Carrie Allison qui accompagne ses œuvres de gazon sur place. Hein?
Oui, on a la plante qui pousse en salle d'exposition, alors on espère qu'elle survivra jusqu'à la fin. En ce moment, elle semble commencer à s'entortiller un peu, donc vous irez voir dans les salles d'expo qu'est-ce qu'il y en a dans les prochains mois.
Il va falloir la tondre, il va falloir la couper.
En fait, c'est ce que Gary propose, c'est qu'on ne le tond pas et qu'on laisse la plante donc vivre, et on peut donc témoigner de l'effet un peu dommage pour cette variété.
Oui, de l'effet de ne pas intervenir. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'est quelque chose. On ne pourrait vraiment absolument pas ne pas parler de Maud Arès, qui est une artiste vedette de la performance.
Maud Arès est une des 4 artistes qui présente à la fois à Expression et au Jardin Daniel A. Séguin. Ouais. Et c'est vraiment une continuité du même projet qu'on peut voir deux articulations de son projet, une à l'intérieur, une installation, puis une installation à l'extérieur qui se retrouve vraiment au-dessus de l'étang et qui est magnifique, qui est absolument...
C'est très poétique, hein?
Tout à fait. Il y a beaucoup de poésie dans la pratique de Mondarès qui, elle, crée des petits microcosmes avec des objets et des matériaux trouvés. Et vraiment, ça peut être toutes sortes de matériaux, à la fois vivants, non vivants, organiques. Et elle crée des modules, elle crée des installations, donc qui crée un certain petit univers.
C'est une glaneuse hein, qui recueille toutes sortes d'objets autour d'une thématique. Et là, on ne pouvait pas voir meilleur pairage que l'étang et les œuvres de Maud Arrête.
Oui, et justement, elle a choisi le lieu de l'étang parce qu'elle s'intéresse à la notion du bassin ou du contenant. Donc, elle s'intéresse à cette notion-là à partir d'un texte de Ursula Le Guin, qui est une autrice, philosophe ou théoricienne, je ne sais pas exactement son titre, mais qui a proposé un texte qui interroge à savoir si le premier outil des humains avait été, plutôt que d'être une arme, un couteau ou une flèche, avait été un contenant. Donc, il aurait été plutôt d'être axé vers la chasse, aurait donc été plutôt axé vers la cueillette. Donc, comment est-ce que ça aurait influencé l'évolution des humains, en quelque sorte? Et donc, elle s'intéresse à cette notion-là du contenant qui, lorsqu'il est retourné, il peut recueillir. Donc, vraiment, on peut y poser des objets ou des trucs. Ou à l'envers, si on le retourne, ça crée un petit abri. Donc, il y a cette double possibilité qui fascine beaucoup l'imaginaire de Maud Arès. Puis, l'étang, justement, dans les dernières années, elle a commencé à travailler à l'extérieur. Puis, l'eau l'intéresse beaucoup, justement, les interactions entre les différents éléments. Donc, l'eau, le vent, les oiseaux, les insectes. Au début, elle réfléchissait beaucoup aux insectes. Finalement, même pendant l'installation, elle a remarqué le comportement des oiseaux autour de son œuvre. Donc, c'est vraiment... toutes des petites choses qui attirent l'attention de Maud, mais qu'elle nous interpelle pour nous aussi se mettre en posture d'observateur et d'observatrice pour témoigner des interactions, des petits changements qui se passent délicatement dans ces installations. Puis, il y a à Expression et au Jardin ces installations qui sont présentées.
Une installation d'ampleur, la Expression.
Oui, tout à fait. Oui. Et ces installations, Maud travaille aussi la performance, donc elle va les activer ou elle va venir faire des petites actions qui engendrent des petites réactions, mais il y a tout un laisser-aller aussi, de laisser la matière interagir, se bousculer, bouger ou au fil du temps, changer carrément parce qu'il y a des éléments organiques aussi dans ces installations. Et justement, la semaine prochaine, le 17 juillet...
Elle n'avait pas pu être à l'ouverture, mais elle sera...
Exact, c'est
bientôt
ça.
Bientôt en performance.
Exact. Donc, elle devait performer le mois dernier, mais là, ça sera la semaine prochaine. Donc, on vous invite le 17 juillet.
Quelle bonne nouvelle.
Oui, tout à fait. Et ça sera précédé d'une conférence d'une herboriste aussi. Donc, une très belle après-midi.
Mon Dieu, en perspective. Et les objets réunis dans cette incroyable installation, ce sont tous des objets qui ont une signification, hein?
Oui, mais c'est des significations aussi que Maud leur donne. Donc, c'est des objets trouvés, récupérés un peu partout.
Selon ses lieux de résidence ou selon ses lieux où elle décide de... glaner les objets.
Ouais, où Maud passe et où elle pose son regard pour remarquer un objet qu'elle conçoit, qu'elle peut réactiver dans son travail. Donc, c'est vraiment tout type d'objet.
Une artiste unique qui se démarque vraiment. Alors, je suis contente que vous ayez intégré Maud Arès, vraiment, cette exposition rassembleuse. Écoutez, comme je vous l'expliquais, on va y aller avec peut-être une autre artiste. J'ai plusieurs artistes que j'ai retenues, mais une que je trouve absolument percutante, Lena Hernandez. Vraiment, là, écoutez... si ce n'est que son installation à Expression, hein, vraiment, qui a tout un impact.
Ileana Hernandez, c'est une artiste qui réside à Montréal, qui est d'origine mexicaine et qui a un travail absolument fabuleux, qui implique souvent la participation aussi des personnes. Alors, depuis... plusieurs années, au moins 5 ans, je dirais, Ileana a conçu un peu une sorte de personnage alter ego qui prend la forme d'une roche. Alors, elle a fait souvent, dans les dernières années, des interventions, souvent dans des milieux urbains, avec ce costume de roche qu'elle porte, puis elle demande aux gens, qu'est-ce que c'est que de se sentir comme une roche, hein? Donc, là, ça interroge toute la valeur qu'on accorde au minéral. Souvent,
on n'accorde pas beaucoup de valeur à une roche, bien que, en fait, l'univers minéral hein, est là depuis des temps immémoriaux et a vu beaucoup de choses se passer qu'on n'a pas nécessairement, nous, observé en tant qu'être humain. Et donc, ben là, c'est un peu dans la foulée de ce projet-là qui questionne un peu, justement, l'altérité, la valeur qu'on considère, qu'est-ce qu'on considère être vivant, non-vivant, animé, inanimé. Et donc là, Ileana Hernandez a une pratique un peu plus spéculative, disons imaginaire, où elle a aussi imaginé à travers le regard de la roche comment la roche percevrait les êtres humains. Et c'est là que ce qu'elle a appelé l'espèce molle entre en ligne de compte. Donc là, qui est présenté avec Cor Roca, c'est vraiment un récit un peu spéculatif où les roches rencontreraient l'espèce molle qui, en fait, est nous, les êtres humains, qui avons des corps aux contours un peu mous, un peu flous, comparativement à la densité, disons, rocheuse. Et donc, il y a un univers sonore aussi qui se déploie,
C'est une section de l'exposition Expression qui est spectaculaire.
Donc, on entre un peu dans l'installation vidéo comme on entrerait dans une sorte de caverne où on verrait un genre de récit du futur un peu à la fois dystopique et inspirant. Il y a quelque chose d'un peu...
voire hypnotisé par cette œuvre-là.
Mais il faut dire que probablement que ce qui contribue à l'hypnotisation ambiante, c'est probablement l'univers sonore qui se dégage. Il y a un travail sonore exceptionnel qui est fait avec la vidéo. Et donc, si vous allez dans la salle, je vous invite à vous asseoir pour regarder la vidéo parce que le banc est animé par des basses fréquences qui, dans le fond, produisent du mouvement.
La chorégraphie spectaculaire aussi.
Absolument. Donc, oui. C'est une artiste qui fait de la performance également et ça se voit parce que c'est vraiment elle qu'on aperçoit en performance dans l'œuvre vidéographique. Ouais.
Écoutez, voilà un coup de cœur. Mais poursuivons. Erika Defretas, qui vraiment présente toute une tablée. son questionnement est très, très, très intéressant. Alors,
Oui, Erika.
Je vais vouloir y répondre.
Mais Erika, elle a une pratique vraiment animée par les questions de processus et de mémoire. Et ici, avec Studies for Gardens, donc c'est une œuvre qui était existante, mais qui a été réadaptée pour l'exposition Cultiver l'humilité en deux temps, donc à la fois à Expression et au Jardin Daniel Arseguin, où on voit des collages, donc... à Expression, c'est une série d'une centaine de collages. À Expression, on en présente une quarantaine. Et au Jardin, il y en a 10-12 autres, dont 3 en très, très grand format dans les fenêtres. Donc, on a vraiment un autre regard sur ces œuvres qui sont très colorées et magnifiques. Et avec ce corpus ici, Erika interroge la question du jardin, mais elle construit des jardins imaginaires à partir de découpes à la fois de textures, de matériaux, de textiles, de végétaux ou même de pièces de corps qu'elle a trouvées dans des magazines de mode. Vraiment, je pense que c'est Vogue, toute une série, mais en tout cas, c'est des magazines qui lui ont été donnés, puis elle a conçu cette œuvre à partir de ses découpes. Et c'est une très grande série, une centaine, comme je disais. Il y a vraiment la notion de processus, donc de construction, déconstruction, reconstruction des jardins imaginaires, qu'on peut voir d'ailleurs dans une vidéo qui accompagne l'œuvre. Donc, il y a vraiment cette notion, on voit ses mains qui placent, déplacent, replacent tous les éléments du jardin pour créer des jardins imaginaires.
Une classique. Établies. Hein?
Oui, tout à fait. Erika, dans d'autres œuvres, elle s'est aussi intéressée à la classification, notamment par rapport à des plantes qui sont nommées par rapport à, en lien à la Vierge Marie. Donc, elle a tous des projets qui s'intéressent à la nomenclature aussi. Mais ici, c'était vraiment la notion de transmission, de qu'est-ce qui se transmet, mais qui se transforme par la transmission qui est présente dans cette œuvre et qui fait écho à une autre petite œuvre qui est présentée, qui est 5 ou 6 pétales d'hibiscus. C'est 5 parce que les fleurs d'hibiscus ont 5 pétales. En porcelaine et qui sont déposées sur un socle, donc elles ne sont pas attachées comme quand la fleur serait composée, donc vraiment elles sont tombées. Puis cette œuvre-là renvoie à son héritage familial, donc sa mère qui est guyanienne. L'hibiscus lui renvoie toujours des souvenirs de son enfance, de son chez-elle. Et ici, Erika montre la fleur comme quoi... Les pétales, elles sont transmises, il y a cet héritage culturel qui est transmis de mère en fille, mais transformé. elle est changée parce qu'Erika, elle habite ici en Ontario, donc il y a tout ça qui est changé, mais qui est quand même présent. Donc, elle interroge cette question-là de passation, que les choses peuvent se transmettre, mais être altérées par le passage du temps ou par le passage des expériences aussi.
Écoutez, ce ne sont que quatre des artistes qu'on peut apprécier sur place, vraiment. Écoutez, c'est intense, c'est dense. Hein? Chaque artiste propose des œuvres et une pratique artistique dense. Merci, mais j'ai eu des coups de cœur là pour aussi. Écoutez, j'ai devant moi là, Zoé Fortier, Anne-France Leclerc aussi qui est assez vedette mondante aussi. Écoutez, mais malheureusement le temps est restreint en onde. Alors, écoutez, maintenant, passons à la fin de semaine. Une fin de semaine intense hein, qui s'en vient. Alors, écoutez, dans quelques jours, ce sera le micro-festival. Un micro-festival qui est proposé vraiment dans un magnifique endroit. Avril, heure actuelle, à Rivière-Ouelle, Saint-Germain, de Kamouraska, La Pocatière. Vous me parliez un peu de la programmation, les gens qui veulent prendre la route puis se rendre sur place, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre comme expérience?
Ah ben oui, vous êtes les bienvenus. Alors, ce micro-festival-là, c'est sur 3 jours, c'est pendant le week-end. L'idée derrière ça, c'était vraiment de créer vraiment un moment de rencontre, d'échange, où les pratiques artistiques côtoieraient toutes sortes de pratiques qui impliquent d'autres types de savoir-faire. Alors, il y aura des personnes qui sont plutôt cueilleuses, et pour ne pas la nommer Claudie Gagné des Jardins de la Mer, des personnes qui œuvrent plutôt dans des centres de recherche, plus un côté scientifique. Donc, on a un partenariat avec Bioptère, et donc il y a deux chercheurs, André Vézina et Emmanuel Caron-Garant, qui vont venir. Il va y avoir aussi des personnes qui sont plutôt artistes, artisanes en textile, qui travaillent avec des teintures végétales, donc d'Alia Milon, et aussi... des performances d'artistes, donc de Mondarès, Anne-France Leclerc et Ileana Hernandez, dont on vient de parler. et aussi une personne née de la communauté Wolastoqué, donc il y a une relation aussi qui s'est créée avec la communauté Wolastoqué près de Kakuna, et donc l'idée finalement, c'est dans un esprit complètement déhiérarchisé entre ces pratiques-là, de ne pas considérer qu'un type de savoir-faire ou qu'une pratique artistique est plus importante l'une que l'autre, de vraiment comme vivre toutes sortes d'expériences et de s'intéresser finalement au sol en l'observant, de s'intéresser au végétal en observant ses états transitoires. Donc on va vraiment passer, disons, d'une intervention à l'autre. Même nous, ça nous réserve plein de surprises parce que chaque personne prépare son petit bout de cette séquence-là sur 2 après-midi là, de cette fin de semaine. Donc, samedi après-midi, ça sera au Jardin de la Mer. On explorera davantage l'environnement des battures. Et le dimanche après-midi, ça sera au Jardin floral de la Pocatière. Donc là, on va être davantage dans un jardin qui est adjacent à une montagne dans lequel il y a une forêt ainsi que des grottes qui résonnent avec les projets sur la roche d'Ileana Hernandez, pour ne pas la nommer non plus.
Je suis époustouflée. Alors, c'est une programmation et des lieux de rêve pour les personnes qui veulent prendre la route puis se rendre tout ça dans ce beau coin du Québec où ils pourront vous rencontrer, vous poser de plus amples questions.
Oui, bien sûr, on y sera, on a très hâte. Nous, on est à quelques heures de nous y rendre et on a très hâte.
En terminant, il y aura sûrement quelques événements dont vous souhaitez parler parce que la programmation ne se terminera pas après ce dimanche 10 juillet, là. Il y a une animation qui va se poursuivre. Élisane Laplante!
Oui, donc justement, il y a quelques activités qui ont déjà eu lieu, mais il y en a encore à venir. Donc évidemment, le micro-festival qui s'en vient. Ensuite, la fin de semaine prochaine, comme on mentionnait un peu plus tôt, la performance de Maud Arès et la conférence Annie Schneider. Donc une belle après-midi au Jardin Daniela Séguin la semaine prochaine.
Et des visites guidées, hein, un grand nombre?
Oui, vraiment, à toutes les semaines, il y a des visites guidées qui sont proposées par l'équipe de médiation chez Expression. Donc vraiment, les gens peuvent se joindre, si je ne me trompe pas, c'est les jeudis et les samedis, les gens peuvent se rendre sur place. Il y aura aussi une activité avec des plantes, d'impression de plantes sur du textile, donc qui aura lieu au mois d'août, le 13 août.
Oui.
Donc, il y aura cette activité. Puis, il y aura aussi la journée de clôture le 11 septembre qui va être un autre grand rassemblement, un peu comme la journée d'ouverture.
Avec Navette de Montréal à Saint-Hyacinthe.
Oui, toujours. Donc, les publics de Montréal sont invités, mais de partout aussi. Et donc, lors de cette journée, il y aura une marche avec le porteur de savoir, Michel Durand-Nollet. Donc, c'est un grand privilège. Il se rendra à Saint-Hyacinthe et au Boisé des Douze, donc on pourra l'accompagner. Ensuite, Maud Arès fera une autre performance aussi. Iléana Hernandez probablement fera une performance aussi à la journée de clôture.
Pour mon plus grand plaisir. Sûrement le vôtre aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, nous, on sera là, on sera présente en salle aussi pour les questions des gens qui auront peut-être pas encore vu l'exposition. Ça sera le dernier moment.
Et un atelier d'herboristerie politique avec Améliane Maillot, chercheuse et herboriste, qu'on a très hâte d'entendre, qui va nous amener des invités mystères pour l'instant, mais qu'on attend avec grande impatience.
Toute une programmation intense, alors merci beaucoup d'être cet agréable entretien, oui, à Radio, non pas à Saint-Hyacinthe, mais à Radio Centre-Ville. Merci aussi de nous avoir présenté, je croirais, l'événement pas mal dans son ensemble, mais il y a encore bien des artistes à découvrir dont on a pu parler. Mais écoutez, bon, je vous souhaite une très belle 7e édition de l'événement Orange qui se poursuit quand même jusqu'à la mi-septembre. Jusqu'à quelle date?
11 septembre prochain. Et puis, il y a plein de choses sur le site web. Vous pouvez écouter les textes curatoriaux à l'audio. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a un espace web aussi qui s'appelle
l'Afrique. Un espace web qu'il ne faut pas oublier.
Oui, hein, avec du matériau de recherche, des artistes. Donc, il y a vraiment toutes sortes de découvertes à faire. Il y a un guide réflexif aussi, très accessible pour des publics qui se sentiraient un peu moins familiers avec l'art contemporain. Il y a tout un lexique, il y a des références. En tout cas, vous pouvez aller vraiment visiter le site web et trouver toutes sortes de références et matières à réflexion là-dessus.
De quoi meubler à 300% son été. Je m'entretenais avec grand plaisir avec Élisane Laplante et Véronique Leblanc. Encore merci.
Merci.
Merci de l'invitation.